contourner le génome. La capacité de créer une réalité imaginaire à partir de mots a permis à de grands nombres d'inconnus de coopérer efficacement. Mais elle a fait plus. La coopération humaine à grande échelle, reposant sur des mythes, il est possible de changer les formes de coopération en changeant les mythes, en racontant des histoires différentes. Dans les circonstances appropriées, les mythes peuvent changer vite. En 1789, la population française changea de croyance presque du jour au lendemain, abandonnant la croyance au mythe du droit divin des rois pour le mythe de la souveraineté du peuple. Depuis la révolution cognitive, Homo sapiens a toujours pu réviser rapidement son comportement au gré de ses besoins changeants. Cela a ouvert une voie rapide à l'évolution culturelle, contournant les embouteillages de l'évolution génétique. Filant sur cette voie, Homo sapiens eut au fait de dépasser toutes les autres espèces humaines et animales par sa capacité de coopérer. Le comportement des autres animaux sociaux est largement déterminé par leurs gènes. L'ADN n'est pas un autocrate. Le milieu et les excentricités individuelles influencent aussi le comportement des animaux. Dans un environnement donné, néanmoins, les animaux de la même espèce auront tendance à se conduire de manière similaire. En règle générale, il ne saurait y avoir de changement significatif de comportement social sans mutation génétique. Les chimpanzés ordinaires ont génétiquement tendance à vivre en groupe de plusieurs douzaines d'individus dirigés par un mâle alpha. Les bonobos, une espèce très proche des chimpanzés, vivent aussi en groupes plus égalitaires, dominés par des alliances de femelles. Les femelles chimpanzés ordinaires ne sauraient prendre exemple sur leurs parents de bonobos et fomenter une révolution féministe. Les mâles ne sauraient se réunir en constituante pour abolir la position de mâle alpha et proclamer que, dorénavant, tous les chimpanzés doivent être traités en égaux. Des changements de comportement aussi spectaculaires ne saurait se produire que si des changements intervenaient dans l'ADN des chimpanzés. Pour de semblables raisons, les hommes archaïques ne lancèrent pas de révolution. Pour autant qu'on puisse le dire, les changements de structure sociale, l'invention de nouvelles techniques et le peuplement d'habitats étrangers résultèrent de mutations génétiques et de pressions du milieu plus que d'initiatives culturelles. C'est pourquoi il fallut des centaines de milliers d'années pour franchir ces étapes. Voici 2 millions d'années. Des mutations génétiques se traduisirent par l'apparition d'une nouvelle espèce humaine appelée l'Homo erectus. Son émergence s'accompagna de la mise au point d'une nouvelle technique d'outils de pierre, aujourd'hui considérée comme un trait saillant de cette espèce. Tant que l'Homo erectus ne subit pas de nouvelles altérations génétiques, ses outils de pierre restèrent grosso modo les mêmes, pendant près de 2 millions d'années. En revanche, depuis la révolution cognitive, Sapiens a toujours pu changer de comportement rapidement et en transmettre de nouveaux aux générations futures sans aucun besoin de changement génétique ou environnemental. Un exemple de choix est l'apparition répétée d'élites sans enfants telles que le clergé catholique, les moines bouddhistes et les bureaucraties chinoises d'eunuques. L'existence de pareilles élites va contre les principes les plus fondamentaux de la sélection naturelle, puisque ces membres dominants de la société renoncent volontiers à la procréation. Tandis que chez les chimpanzés, les mâles alpha se servent de leur pouvoir pour copuler avec le plus grand nombre de femelles possible et de ce fait engendrent une bonne partie des jeunes de leur troupe, le mâle alpha catholique s'abstient totalement de rapports sexuels et de soins aux enfants. Cette abstinence ne tient pas à des conditions environnementales particulières telles qu'une grave pénurie de vivres ou le manque de partenaires potentiels. Elle n'est pas non plus le fruit d'une étrange mutation génétique. Ce n'est pas en refilant le gène du célibat d'un pape à l'autre que l'Église catholique a survécu, mais en transmettant les histoires du Nouveau Testament et du droit canon. Autrement dit, alors que les modèles de comportement des humains archaïques restaient figés pendant des dizaines de milliers d'années, les sapiens ont pu transformer en une décennie ou deux leur structure sociale, la nature de leurs relations interpersonnelles, leurs activités économiques et une pléiade d'autres comportements. Prenez une Berlinoise née en 1900 et vivant jusqu'à l'âge mûr de 100 ans. Elle a vécu son enfance sous les Hohenzollern de Guillaume II, Sa vie adulte sous la République de Weimar, le Troisième Reich nazi, puis l'Allemagne de l'Est communiste, et elle est morte en citoyenne d'une Allemagne démocratique et réunifiée. Elle s'est débrouillée pour vivre sous 5 régimes sociopolitiques très différents, bien que son ADN soit demeuré exactement le même. Ce fut la clé de la réussite du sapiens. En un combat singulier, un Néandertal aurait probablement battu un sapiens, mais dans un conflit de plusieurs centaines d'individus, les Néandertals n'avaient pas la moindre chance. Ils pouvaient partager des renseignements sur les déplacements des lions, mais probablement ne pouvaient-ils raconter ni réviser des histoires sur les esprits tribaux. Bien incapables de composer des fictions, les Néandertals étaient incapables de coopérer effectivement en grand nombre. Ils ne pouvaient adapter leur comportement social à des défis qui se renouvelaient rapidement. Si nous ne pouvons nous insinuer dans l'esprit des Néandertals pour comprendre leur façon de penser, nous avons des preuves indirectes des limites de leur cognition en comparaison de leurs rivaux sapiens. Les archéologues qui fouillent des sites sapiens de 30 000 ans au cœur de l'Europe découvrent parfois des coquillages des côtes méditerranéennes et atlantiques. Il est très vraisemblable que ces coquilles se soient retrouvées à l'intérieur des terres du fait d'un commerce à longue distance entre bandes de sapiens. On ne signale aucune trace d'un pareil commerce sur les sites néandertaliens. Chaque groupe fabriquait ses outils avec les matériaux du coin. Un autre exemple nous vient du Pacifique Sud. Les bandes de sapiens qui vivaient sur l'île de Nouvelle-Irlande, au nord de la Nouvelle-Guinée, se servaient d'une roche vitreuse volcanique, l'obsidienne, pour fabriquer des outils particulièrement robustes et tranchants. Or, la Nouvelle-Irlande ne possède pas de gisement naturel d'obsidienne. Des tests en laboratoire ont révélé que l'obsidienne employée venait de gisements de Nouvelle-Bretagne, à 400 km de là. Certains habitants de ces îles devaient être d'excellents navigateurs qui commerçaient d'île en île sur de longues distances. Le commerce peut passer pour une activité très pragmatique, qui ne nécessite aucune base fictive. Mais le fait est qu'aucun autre animal que le sapiens ne s'y livre, et que tous les réseaux commerciaux de sapiens que nous connaissons en détail reposaient sur des fictions. Le commerce ne saurait exister sans confiance, et il est très difficile de se fier à des inconnus. Le réseau commercial mondial actuel repose sur notre confiance en des entités fictionnelles comme le dollar, la Federal Reserve Bank et les marques commerciales totémiques des sociétés. Quand deux inconnus d'une société tribale veulent commercer, ils vont souvent instaurer la confiance en invoquant un dieu commun, ancêtre mythique ou animal totem. Si les sapiens archaïques, croyant à de telles fictions, faisaient commerce de coquillages et d'obsidiennes, il va de soi qu'ils pouvaient aussi échanger des informations, créant ainsi un réseau de savoir plus dense et plus vaste que celui des Néandertals et des autres humains archaïques. Les techniques de chasse donnent une autre illustration de ces différences. Les Néandertals chassaient habituellement seuls ou en petits groupes. Les sapiens, en revanche, mirent au point des techniques supposant la coopération de plusieurs douzaines d'individus, voire de bandes différentes. Une méthode particulièrement efficace consistait à encercler tout un troupeau d'animaux, de chevaux sauvages par exemple, et à les refouler dans une gorge étroite où il était facile de les massacrer en masse. Si tous respectaient le plan, les bandes pouvaient recueillir des tonnes de viande, de graisse et de peau en un seul après-midi d'effort collectif, et soit consommer ces richesses dans un potlatch géant, soit les sécher, fumer et congeler pour un usage ultérieur. Des archéologues ont découvert des sites où des troupeaux entiers étaient ainsi massacrés chaque année. Il existe même des sites où l'on dressait des clôtures et des obstacles pour créer des pièges artificiels et des terrains de carnage. On imagine que les Néandertals n'étaient pas vraiment ravis de voir leur terrain de chasse traditionnel transformé en abattoir sous le contrôle des sapiens. Mais si des violences éclataient entre les deux espèces, les Néandertals n'étaient guère mieux lotis que les chevaux sauvages. 50 Néandertals coopérant de manière statique et traditionnelle n'étaient pas de taille à affronter 500 sapiens polyvalents et novateurs. Et même si les sapiens perdaient la première manche, ils pouvaient rapidement inventer de nouveaux stratagèmes qui leur permettaient de prendre leur revanche. Ainsi, durant la révolution cognitive, trois nouvelles facultés sont apparues qui ont pu entraîner des conséquences plus larges. La faculté de transmettre de grandes quantités d'informations sur le monde entourant l'Homo sapiens a conduit à la préparation et l'exécution d'actions complexes, par exemple pour éviter les lions et chasser le bison. La faculté de transmettre de grandes quantités d'informations sur les relations sociales des sapiens a permis, quant à elle, de créer des groupes plus grands et plus soudés, pouvant aller jusqu'à 150 individus. Enfin, la faculté de transmettre de grandes quantités d'informations sur des choses qui n'existent pas vraiment, telles que les esprits tribaux, les nations, les sociétés anonymes à responsabilité limitée et les droits de l'homme, a favorisé la coopération entre des nombres très importants d'inconnus, ainsi qu'une innovation rapide en matière de comportement social. Histoire et biologie. L'immense variété des réalités imaginaires que Sapiens inventa et la diversité des formes de comportement qui en résulta sont les principaux éléments constitutifs de ce que nous appelons du nom de culture. Jusqu'à la révolution cognitive, les agissements de toute l'espèce humaine relevaient de la biologie ou, si vous préférez, de la préhistoire. J'ai tendance à éviter ce mot parce qu'il implique à tort que dès avant la révolution cognitive, les humains étaient dans une catégorie bien à eux. À compter de la révolution cognitive, les récits historiques remplacent les théories biologiques en tant que principales explications du développement de l'Homo sapiens. Pour comprendre l'essor du christianisme ou la Révolution française, il ne suffit pas de comprendre l'interaction des gènes, des hormones et des organismes. Il est nécessaire de prendre en compte également l'interaction des idées, des images et des fantasmes. Ce qui ne veut pas dire qu'Homo sapiens et la culture humaine se soient soustraits aux lois biologiques. Nous sommes encore des animaux, et nos capacités physiques, émotionnelles et cognitives demeurent façonnées par notre ADN. Nos sociétés sont construites avec les mêmes éléments que les sociétés de Néandertal et de chimpanzés, et plus nous examinons ces éléments, sensations, émotions, liens familiaux, moins nous percevons de différence entre nous et les autres singes. On aurait cependant tort de rechercher les différences au niveau de l'individu ou de la famille. Pris un par un, voire 10 par 10, nous sommes fâcheusement semblables aux chimpanzés. Des différences significatives ne commencent à apparaître que lorsque nous franchissons le seuil de 150 individus. Quand nous atteignons les 1500 à 2000 individus, les différences sont stupéfiantes. Si vous essayez de réunir des milliers de chimpanzés à Tiananmen, à Wall Street, au Vatican ou au siège des Nations Unies, il en résulterait un charivari. En revanche, les sapiens se réunissent régulièrement par milliers dans des lieux de ce genre. Ensemble, ils créent des structures ordonnées, réseaux commerciaux, célébrations de masse et institutions politiques qu'ils n'auraient jamais pu créer isolément. Entre nous et les chimpanzés, la vraie différence réside dans la colle mythique qui lie de grands nombres d'individus, de familles et de groupes. Cette colle a fait de nous les maîtres de la création. Bien entendu, d'autres compétences étaient aussi nécessaires, telles que la capacité de fabriquer et d'utiliser des outils. Mais fabriquer des outils est sans grande conséquence si cela ne va pas de pair avec la faculté de coopérer avec beaucoup d'autres. Comment se fait-il que nous ayons des missiles intercontinentaux pourvus d'ogives nucléaires alors que voici 30 000 ans, nous n'avions que des bâtons aux extrémités pourvus de silex? Physiologiquement, notre capacité de fabriquer des outils ne s'est pas sensiblement améliorée au cours des 30 000 dernières années. Albert Einstein était bien moins habile de ses mains qu'un ancien chasseur-cueilleur. Toutefois, notre capacité de coopérer avec des masses d'étrangers s'est spectaculairement améliorée. La pointe de lance en silex est étayée en quelques minutes par une seule personne qui s'en remettait au conseil et à l'aide d'une poignée d'amis intimes. La production d'une ogive nucléaire nécessite la coopération de millions d'inconnus à travers le monde, des ouvriers qui extraient l'uranium des profondeurs de la Terre aux spécialistes de physique théorique qui écrivent de longues formules mathématiques pour décrire les interactions des particules subatomiques. Pour résumer la relation entre biologie et histoire, après la révolution cognitive, petit a. La biologie fixe les paramètres de base du comportement et des capacités de l'Homo sapiens. Toute l'histoire se déroule dans les limites de cette arène biologique. Petit b. Toutefois, cette arène est extraordinairement vaste, permettant aux sapiens de se livrer à une variété stupéfiante de jeux. Grâce à leur capacité d'inventer des fictions, les sapiens créent des jeux toujours plus complexes que chaque génération développe et élabore encore. Petit c. En conséquence, pour comprendre comment les sapiens se conduisent, il nous faut décrire l'évolution historique de leurs actions. Se référer exclusivement aux contraintes biologiques serait se conduire comme un journaliste sportif de radio qui, suivant la Coupe du monde de football, ne donnerait à ses auditeurs qu'une description minutieuse du terrain au lieu d'expliquer ce que font les joueurs. À quel jeu jouaient donc nos ancêtres de l'âge de pierre dans l'arène de l'histoire ? Pour autant que nous le sachions, les hommes qui sculptèrent l'homme-lion de Stadel, voici 30 000 ans, possédaient les mêmes facultés physiques, émotionnelles et intellectuelles que nous. Le matin, au réveil, que faisaient-ils ? Que prenaient-ils au petit-déjeuner et au repas de midi ? À quoi ressemblait leur société ? Avaient-ils des relations monogames et des familles nucléaires, des cérémonies, des codes moraux, des compétitions sportives et des rituels religieux ? Faisaient-ils la guerre ? Le prochain chapitre jette un coup d'œil derrière le rideau des siècles pour examiner à quoi ressemblait la vie dans les millénaires séparant la révolution cognitive de la révolution agricole.